Aujourd'hui, il y a beaucoup d'unions libres. Alors pourquoi pas l'union libre? Pourquoi le concubinage n'est-il pas une option alternative? Alors pourquoi d'abord être en concubinage alors que le mariage existe et qu'il est reconnu? Alors certains avanceront des arguments juridiques. Par exemple, pour un remariage, si le divorce n'est pas encore prononcé, on va vivre en concubinage. Ou économique, on va avoir des avantages fiscaux en étant mère monoparentale, famille monoparentale, etc. Ou idéologique. Ça, c'est un peu tombé en désuétude, mais après 68, oui, il fallait mettre à bas la famille. Ou alors psychologique, tout simplement, il faut s'essayer. Je pense que c'est la motivation essentielle aujourd'hui du concubinage. Il faut s'essayer pour voir si ça marche. Et c'est, si vous devez retenir une chose de cet après-midi, c'est ce que j'aimerais vous faire passer. C'est ce défi de l'engagement que constitue le mariage chrétien par rapport à cette peur de s'engager. Alors c'est vrai que c'est une situation quasi généralisée. Mais pour autant, elle n'est pas soutenable sur le plan biblique. Pourquoi ? Parce que la Bible a un terme pour qualifier une cohabitation en dehors du mariage, ça s'appelle la fornication. Et alors, on verra, même si je ne vais pas centrer, rassurez-vous, l'essentiel de mon propos là-dessus, quelques impératifs des Épîtres. Les plus du mariage, alors on pourrait dire, oui, mais ça c'est négatif comme présentation, vends-moi le positif pour le mariage. C'est que le mariage, c'est l'amour qu'on conjugue dans la durée, non dans l'instantanéité. Concubinage, ça se fait, ça se défait. Le mariage, on s'engage dans la durée. Et puis aussi, il y a la portée symbolique de l'acte officiel. Quand les deux mariés se lèvent et disent oui devant le monsieur ou madame le maire, bien c'est un oui à des articles du Code civil qui disent des choses fortes. Et donc ça introduit une rupture. Il y a eu l'avant 15 avril 1994 pour nous et l'après. Et de sorte que dans nos vies, nous avons besoin de ces points structurants. Et aujourd'hui, on est dans une civilisation qui a aboli un petit peu ces points structurants. Par exemple, pour certains d'entre vous, le baptême, votre baptême, vous êtes baptisé adulte, ça sera un point marquant de votre cheminement spirituel. De la même manière, dans votre cheminement d'humain, le mariage est un point important. Autre point, c'est que c'est un engagement de foi. Et que, aussi, c'est la mise en œuvre du vrai sens de l'amour. Quand je me marie, je proclame l'exclusivité. C'est un don total, définitif et sans réserve que je fais, a priori. Et puis aussi, pour les chrétiens, c'est un exemple de l'engagement éternel de Christ vis-à-vis de l'Église. Christ, il ne nous a pas mis à laisser. Il nous a pris directement pour l'éternité, qu'il en soit loué. Alors, le mariage, c'est une image imparfaite d'une réalité spirituelle. Vous savez, le mariage, c'est une institution terrestre limitée à la terre. Ça surprend un peu parfois. Et on sait que le Seigneur a eu un dialogue avec les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et ils avaient inventé une histoire loufoque où il y a une femme qui avait eu 7 maris, puis disent au Seigneur, dans la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus leur dit, vous êtes dans une grande erreur, parce que à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et d'ailleurs, le fait que votre mariage soit limité à la terre, ça renforce le sérieux. Parce qu'on ne peut pas se dire, eh bien, un peu le passif entre ma femme et moi, ça sera réglé dans le ciel. Non, c'est sur la terre. C'est avant le retour du Seigneur qu'il faut le régler. Et donc, ça renforce le sérieux de la façon dont nous vivons comme mari et femme sur la terre. Et puis, pour nous, et ça c'est vrai que c'est un élément qui nous dépasse, c'est que le mariage c'est une illustration d'une réalité spirituelle. Vous savez, souvent la Bible prend des images de choses terrestres en disant, voilà, je prends ça comme image. Tandis que pour le mariage, on renverse l'ordre. De façon très surprenante, quand dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme l'époux de l'Église, Paul ajoute à la fin de son développement dans Éphésiens 5, quand il fait le parallèle entre l'union mystique, comme on l'a appelé, même si j'aime pas trop ce terme, entre Christ et l'Église, et puis l'union entre l'homme et la femme, il dit « Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. » De sorte que le vrai mariage, intrinsèquement, il est dans le ciel entre Christ et l'Église, et nos mariages terrestres ne sont qu'une image imparfaite d'une réalité céleste qui nous le dépasse. Mais de sorte que vous voyez la grandeur que cela donne au mariage dans cette perspective. Les noces de l'agneau, elles seront célébrées dans le ciel demain. Mais aujourd'hui, chacun de nos petits mariages, il peut avoir la vertu, le privilège de refléter, d'anticiper quelque peu cela. Voilà, je m'arrête là pour le moment sur la partie un petit peu doctrinale. Nous avons posé les bases. Et maintenant, avant de regarder un certain nombre de questions pratiques, j'aimerais juste en introduction faire un caveat sur les limites et la portée des exemples bibliques. Alors, bien entendu, nous allons nous baser sur la Bible. Je ne vous fais pas un cours de psychologie, c'est une conférence chrétienne. Donc, on va se baser sur des textes bibliques, même s'il y aurait beaucoup de choses très utiles à tirer de l'expérience de ceux qui sont impliqués, par exemple, dans la relation d'aide ou dans le conseil conjugal. Mais néanmoins, l'enseignement biblique est fondamental, parce qu'on ne va pas fonder notre conception du mariage sur ce que nous dit Isa, Jasmin, elle, Marie-Claire, voici ou que sais-je. ou ni sur un livre de biologie qui va présenter strictement l'anatomie de l'homme et de la femme, ou sur les idées avant-gardistes du planning familial, ou sur que sais-je. Non, nous allons nous baser sur l'Écriture. La Bible, la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, eh bien, c'est notre seul guide en termes de doctrine et de conduite. C'est les réformateurs qui l'ont dit, nous le disons à leur suite. Cela étant, les exemples bibliques ont forcément leurs limites, parce que ce sont des récits à replacer dans leur contexte historique. Par exemple, je ne pense pas pour ma part que l'exemple d'Isaac et Rebecca, si encensé qu'il ait été en Genèse 24, soit l'exemple type du mariage idéal. Donc ce n'est pas un modèle pour moi, désolé pour ceux qui le pensent. Si vous voulez, après on pourra en parler tête à tête, j'ai des éléments très clairs là-dessus. Deuxième point, c'est qu'on a une situation qui est dégradée par rapport au commencement. Et puis troisième point, c'est que la situation actuelle est très différente. Avant, bien, il y avait ces patriarches avec leur grande famille tout autour d'eux. Aujourd'hui, ben, c'est la famille nucléaire qui est éclatée ici ou là. Et puis en plus, l'émancipation de la femme a quand même changé notablement les choses. Et elle est due, grâce à Dieu, en partie au christianisme. Alors, avant de parler de mariage, la première question, c'est est-ce que j'ai le don du célibat ? Alors là, j'aimerais parler, mais avec... j'aimerais vraiment pas blesser qui que ce soit ici, en parlant de ce sujet, parce que c'est des sujets qui sont délicats. Il y a sans doute des célibataires ici, où on connaît tous des célibataires, pour qui c'est difficile à vivre. C'est une situation qui est difficile à vivre. Alors, comment la Bible en parle ? Eh bien, c'est surtout l'apôtre Paul qui en parle, et il en parle, dans le chapitre 7 de sa première épître aux Corinthiens, comme d'une grâce particulière qui est donnée pour un service spécial. Il parle de cela comme un don de grâce. Alors, il me semble qu'il est légitime de différencier deux types de célibat. Ce don, j'ai mis qu'il était rare parce que c'est vrai que je n'en ai pas rencontré beaucoup de personnes qui aient vraiment ce don de célibat où quelqu'un décide volontairement de ne pas se marier pour se consacrer au Seigneur. Mais ça existe. Et puis dans beaucoup de cas, quand vous parlez avec des célibataires, ils vous diront qu'ils seraient très contents de ne pas avoir reçu son don de grâce et que si même ils l'ont reçu, ils ne sont pas sûrs du tout de l'avoir reçu et qu'ils auraient préféré ne pas le recevoir bon, parce que c'est une situation de fait. L'un ou l'autre aurait aimé se marier et puis ça ne s'est pas présenté ou il y a eu des choses tristes ou que sais-je. Donc voilà, je crois qu'il nous faut beaucoup de délicatesse par rapport à cela. Mais ce que la parole nous dit, et c'est encourageant, c'est que le célibat, ce n'est pas une vie qui est au rabais. C'est une vie que Paul présente avec des plus, avec des moins et avec des plus. Des moins qui sont en fait des plus. Moins de tension face à la société, vous lirez les passages si vous le souhaitez. Moins de tension personnelle, parce que le mariage, c'est un pécheur plus une pécheresse, au fond, hein. Et puis plus de temps et d'opportunités pour servir le Seigneur, on a plus de temps disponible que quand il faut s'occuper de son conjoint ou de ses enfants. Une plus grande famille, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce beau texte d'Ésaïe 56 qui nous parle des eunuques, de ceux qui ne se sont pas mariés. Et l'Éternel dit aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent les choses auxquelles je prends plaisir et qui tiennent ferme mon alliance, et ce n'est pas facile de tenir ferme en tant que célibataire. Eh bien, je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Et la stérile du chapitre 54, eh bien, voit cueillir beaucoup de fils. Et on connaît des frères et des sœurs surtout, célibataires, qui ont vraiment eu cette expérience d'une plus grande famille. Et puis une plus grande récompense aussi, parce que si quelqu'un... parce qu'il a eu une avance d'un collègue ou d'une collègue non chrétien à refuser, alors qu'il aurait peut-être eu une opportunité là de se marier, par amour pour le Seigneur, eh bien, il est dit que la récompense en sera grande de celui qui aura laissé cela. Alors, la deuxième question très concrète que j'aimerais aborder, c'est celle-là. Y a-t-il un conjoint choisi par Dieu à trouver ? Alors là aussi, j'aurais vraiment à cœur de couper la tête à un mythe tenace, qu'il y a le conjoint que je dois trouver sous peine de rater totalement ma vie. Parce que vous vous rendez compte l'angoisse, je ne sais pas s'il y a... Il y a des filles et des garçons non mariés. Vous rendez compte, on est 6 milliards d'êtres humains, ça fait 3 milliards de l'autre sexe. Bon, si on prend ceux qui sont mariés, trop jeunes, trop vieux, il en reste quand même un bon milliard. Donc il faudrait que je trouve l'aiguille de foin dans un milliard. C'est terrible. De plus, ça peut avoir des conséquences dangereuses, ça pourrait être une justification du divorce. Ah ben oui, je me suis marié avec un tel, mais ça y est, j'ai rencontré la personne que Dieu m'avait destinée de toute éternité. Et la première fois, je m'étais trompé. Donc j'ai commis un péché la première fois, je divorce, je me marie avec la personne que j'ai enfin découverte. Je m'étais trompé dans le milliard là tout à l'heure. Non. De plus, ça peut aussi parfois induire une remise en cause spirituelle inutile. Des deux côtés d'ailleurs. Pensez au garçon qui a écrit une lettre et qui était persuadé que c'était la fille que le Seigneur lui avait destinée, et puis il se fait bouler. ça peut être une dépression spirituelle si on pense que c'est la seule. Ou alors il pensait à une fille, ou une fille pensait à un garçon, il se fiance avec une autre. Alors qu'il semblait vraiment que le Seigneur dirigeait vers ce garçon. Ou alors, on raconte l'histoire d'une fille à la fin d'une qui était dans un institut biblique. Le même jour, elle reçoit deux lettres de deux garçons différents disant les deux qu'ils étaient persuadés que le Seigneur leur avait montré de la façon la plus claire qu'elle devait se marier avec eux. Qu'est-ce qu'elle fait avec ces deux lettres? Bon, donc vous voyez, je crois qu'il faut faire dégonfler le soufflet et ne se dire que la réalité biblique, même si c'est la décision la plus importante de la vie après le salut, fondamentalement, elle n'est pas plus imposée qu'une autre. Je suis désolé, j'ai mis mon pantalon noir ce matin, j'ai pas prié pendant des semaines pour savoir si je devais vous parler avec mon pantalon noir. Dieu n'a pas une volonté directrice pour le pantalon ou la chemise que je vais mettre demain matin. Non, c'est faux. C'est dans le cadre de ma liberté chrétienne. Et je crois qu'il en est de même dans le cadre du mariage. Alors on verra, il y a un cadre. Mais la bonne attitude, me semble-t-il, c'est d'abord d'être optimiste. Dieu veut notre bien. Et pour cela, on peut lire ce texte de Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire. Donc, être optimiste, pas partir battu. De façon active aussi, je dois faire ma part en premier lieu avec le Seigneur. On verra se marier dans le Seigneur. Et puis aussi responsable, je dois assumer mes choix. Parce que sinon, on peut arriver au point du divorce que j'évoquais tout avant. Alors c'est vrai que la réalité a deux faces. C'est vrai qu'aussi Dieu conduit. C'est vrai qu'aussi il y a la souveraineté de Dieu dans la direction de notre vie. C'est vrai que il y a ces deux, vous voyez, je vous ai mis deux rails de chemin de fer parce que souvent on le compare à cela. La liberté de choix de l'être humain dans notre vie et la souveraineté de Dieu dans la direction de notre vie. Et les deux vont de pair. Et alors essayons d'arrêter de toujours vouloir les faire se rencontrer. De sorte que, comme le disait Agur en Proverbe 30, il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi, il en est quatre que je ne puis connaître, le chemin de l'homme vers la jeune fille. C'est mystérieux. Alors c'est vrai que, a priori, je ne crois pas qu'il était inscrit, j'oserais presque dire un peu de façon provocante, dans les astres, bon, plus exactement que Dieu avait prévu de toute éternité, que la seule personne que j'aurais pu épouser, c'était Anne, sinon j'aurais raté totalement ma vie. Cela étant, c'est vrai qu'a posteriori, on est reconnaissant, Anne et moi, de constater que les choses ont été quand même dirigées comme cela. On en remercie Dieu, vous voyez. Mais c'est une autre démarche. Alors, si j'ai un peu ma part à faire, plutôt que de rester les bras croisés en attendant que j'ai un songe, une belle nuit d'été qui me fasse apparaître le visage que Dieu m'a destiné, parce que là je risque d'attendre un petit peu de temps, eh bien quels sont les critères? Ce qu'on peut dire, c'est que l'homme est composé de deux parties, d'une partie matérielle et d'une partie immatérielle. Dans la partie matérielle, l'esprit et l'âme. Retenez ça, et puis le corps. Et la femme, c'est pareil, je vous rassure. Donc, dans le choix d'un conjoint, vont intervenir deux facteurs, des facteurs de complémentarité et des facteurs de correspondance. Et alors suivant, il y a tous les cas de figure. On dit parfois les contraires s'attirent, on dit parfois qu'ils se ressemblent s'assemblent. Vous voyez, même la sagesse populaire, elle a les deux côtés. Donc, dans tout couple, il va y avoir des éléments de complémentarité et des éléments de correspondance qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, quels sont les critères de choix? Eh bien, j'ai mis l'attirance physique. Pourquoi? Parce que on voudrait bien être hyper spirituel et dire « Ah, les critères de choix, c'est qu'il faut que mon conjoint soit… » C'est vrai, mais il faut d'abord que je ne le trouve pas repoussant. Désolé, hein. Alors les choses peuvent évoluer, mais j'aime beaucoup ce texte de Genèse 29. Rachel était belle de taille et belle de visage, et Jacob aimait Rachel. Il la trouvait jolie. Mais ce n'est pas tout, parce que, vous savez, on évolue. Et j'avais un grand-père avec lequel je discutais, et parfois on parlait… de tel ou tel couple qui avait 70 ans bien tassé à l'époque, et il me disait « Oh, si tu savais, dans sa jeunesse, c'était une splendeur. » Moi, j'étais là, bah, dis donc. Et puis, pour tel autre, il disait « Oh, ben oui, quand elle était jeune, elle était pas… » Mais... Et puis, à 70 ans, c'était une femme qui faisait son âge, 70 ans, mais qui était belle. Donc, vous voyez, les proverbes ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, l'attirance physique, c'est important à laisser à sa place. Affinité intellectuelle aussi. Vous savez, on passe beaucoup de temps quand même en tête à tête au cours d'une vie, surtout avec l'espérance de vie qui se rallonge. Hein. Donc il faut quand même que l'affinité intellectuelle, qu'on ait quand même un peu des centres d'intérêt un peu compatibles, la compatibilité des caractères aussi, même s'il ne s'agit pas d'être exactement semblable, mais il faut quand même que ça joue un petit peu. Et puis surtout, bien entendu, la même foi réelle, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire solide. Alors, comment être sûr de faire le bon choix? Comme je vous mets d'abord réviser vos conceptions erronées. Et puis, encore et toujours, le mariage, ce sera un pas de foi. Aujourd'hui, on a peur de l'engagement.